Europe 1,
5h, 7h, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'actu saupoudrées de quelques rires. Debout les copains se poursuit avec l'éclairage historique de Fabrice d'Almeida, le monsieur histoire d'Europe 1 qui revient ce matin sur le 25 février 1429, mais oui, le jour où Jeanne d'Arc parvenait à reconnaître le roi Charles VII, une rencontre déterminante dans l'histoire de France.
Merci d'écouter Europe 1, nous sommes le 25 février et il est 6h. Très bon réveil. 5h-7h sur Europe 1, Eva Rock.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 25 février, voici le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
À la une.
C'était le sommet qui devait tout changer au Vatican et dans l'Église. Après 4 jours de débat sur les actes de pédophilie, les annonces sont assez décevantes aux yeux des victimes. Faut-il que tout le monde paye des impôts sur ses revenus? Aujourd'hui, seuls 4 Français sur 10 sont imposables. En 24 heures, le gouvernement a mis le sujet sur la table et l'a retiré aussitôt. Et puis, vos enfants vont vous les réclamer, les produits Disney cuisine arrive dans les supermarchés. Reste à voir ce qu'ils valent d'un point de vue nutritionnel.
Europe 1.
190 évêques ont entendu le message du pape hier à Rome. Il appelle l'Église à une véritable purification face aux affaires de pédophilie. Mais les 4 jours de sommet au Vatican consacrés à ce scandale n'auront probablement pas suffi pour résoudre l'immense défi auquel l'Église fait face. Le bilan des débats est assez décevant pour les victimes, comme Jean-Marie Furbringer, un catholique suisse rencontré au Vatican par Virginie Riva.
Honnêtement, c'est décevant. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas non plus que ce serait le grand soir et que tout allait changer. Mais je trouve c'est presque un recul par rapport à d'autres discours. Mais ce qui, pour nous, est finalement vexant, c'est le fait de... Nous, on est là, et il me semblait que le sommet, c'était pour parler des abus sexuels commis par des prêtres. Et finalement, le texte noie le poisson en parlant de plein d'autres problèmes, de la pornographie sur Internet, du tourisme sexuel, choses comme ça, qui sont des problèmes graves. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas des problèmes graves. Il a aussi le droit d'en parler. Mais enfin, on s'attendait quand même à la fin de cette semaine qu'il pourrait adresser des paroles fortes, intéressantes, peut-être encourageantes pour ceux qui ont encore un petit espoir que l'Église peut faire quelque chose. Et puis malheureusement, ce n'est pas le cas.
Jean-Marie Furbringer, victime d'actes pédophiles au micro Europe 1 de Virginie Riva. C'est assez inhabituel à cette saison, mais des incendies de forêt commencent déjà à ravager les paysages de la Corse. 1500 hectares ont brûlé depuis samedi soir. On compte 48 départs de feu, en particulier du côté de Calenzana, près de Calvi, dans le nord-ouest de l'île. 39 engins et 160 pompiers sont sur le terrain, appuyés par 3 avions. Décidément, alors que nous sommes en plein grand débat national, certaines idées ne sont pas autorisées, semble-t-il. Ainsi, la ministre Jacqueline Gourault, qui proposait de faire payer l'impôt sur le revenu à tous les Français, y compris ceux aux revenus les plus modestes, ils auraient dû verser 1 euro. Eh bien, cette proposition a été retoquée hier par Matignon. Il faut dire que cela coûterait cher, paradoxalement, de prélever l'impôt sur de si petites sommes. C'est ce que nous explique Vincent Drozet du syndicat Solidaire Finances Publiques.
Aujourd'hui, vous avez à la fois des personnes qui ne payent pas d'impôt sur le revenu parce qu'ils sont non imposables au sens pur du terme, si j'ose dire, et des personnes qui devraient payer entre 0 et 61 euros, mais à qui on ne demande pas le recouvrement. Ce serait possible, ça serait sans doute onéreux, très peu rentable budgétairement, parce que ça serait quelques dizaines ou centaines de millions d'euros, alors qu'on a 300 milliards d'euros de recettes fiscales auxquelles il faut ajouter les recettes sociales. Donc, encore une fois, malheureusement, c'est une idée qui, dans son principe, serait intéressante à débattre, mais à partir du moment où le gouvernement a figé, par ailleurs, tout débat sur des évolutions profondes qui potentiellement seraient intéressantes dans le système fiscal, à partir du moment où en plus il fragilise l'administration fiscale, c'est une idée qui, dans ces conditions-là, ne doit pas être mise en œuvre.
Vincent Drozet du syndicat Solidaire Finances Publiques, il était au téléphone, Europe 1 d'Adrien Beck. Ils se retrouvent au même endroit qu'il y a une semaine. Les syndicats de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde ont rendez-vous une nouvelle fois à Bercy au ministère de l'Économie avec les élus locaux et le ministre Bruno Le Maire. Mais aujourd'hui, la situation est bien plus compliquée puisque le constructeur américain a rejeté la dernière offre de reprise du site qui fabrique des boîtes de vitesse et qui emploie 850 personnes.
Et puis avis au petit génie de l'informatique, car il y a 150 000 francs suisses à gagner en ce moment.
Oui, ça représente 132 000 euros et c'est la somme que met en jeu le gouvernement suisse qui propose cela aux hackers qui réussiront à perturber son système de vote électronique. Il s'agit donc d'un concours pour renforcer la sécurité de ce système démocratique. Les explications de Pauline Jacquot.
Leur mission, manipuler les suffrages, violer le secret du vote et mettre hors service les dispositifs de sécurité. Récompense, 150 000 francs suisses, soit 132 000 euros. C'est le défi très officiel lancé par la chancellerie fédérale pour identifier la moindre petite faille potentielle de leur système de vote électronique. Pour s'inscrire, rien de plus simple, quelques clics pour s'enregistrer sur un site. Les petits génies de l'informatique ont ensuite un mois pour tenter de pirater le système sans bien sûr se faire remarquer par les autorités. Le principe n'est pas nouveau, ça s'appelle le bug bounty, payer quelqu'un qui identifie des bugs. Plusieurs entreprises l'ont déjà testé. L'an dernier, Google a versé 36 000 euros à un adolescent uruguayen de 17 ans qui avait détecté une grosse faille de sécurité interne. En lançant ce défi, l'objectif de la Suisse est très sérieux, démocratiser d'ici 2 ans le vote informatique dans tous les cantons du pays.
Pauline Jacot pour Europe 1. Le week-end a été très tendu au Venezuela autour d'un convoi d'aide humanitaire bloqué par l'armée. Les États-Unis n'excluent pas l'usage de la force pour faire partir le dirigeant Nicolas Maduro, qualifié de pire du pire des tyrans par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Aujourd'hui, l'autre président, Juan Guaido, président autoproclamé, réunit ses alliés du groupe de Lima, constitué de 14 pays sud-américains et du Canada.
Et si on allait faire nos courses, mon cher François, nos courses alimentaires chez Disney?
Oui, mais alors c'est une drôle d'idée, Eva, mais pourquoi pas?
C'est vous qui me l'avez écrit, hein. J'aurais jamais pensé par moi-même.
Il se trouve que le géant américain du divertissement vient de lancer son propre label, ça s'appelle Disney Cuisine, et c'est censé indiquer aux parents des produits de bonne qualité nutritionnelle pour leurs enfants. Pierre Arbulot est allé voir pour Europe 1 si ça fonctionnait auprès des clients.
Sur la boîte du paquet de céréales, la musculature de Monsieur Indestructible prend plus de place que le petit label indiquant Disney Cuisine. Pourtant, plus qu'une opération communication, le label est censé garantir la qualité nutritionnelle des produits, ce qui n'empêche pas les parents d'être méfiants, comme Marie-Laurence, maman de 2 enfants.
C'est pas un logo qui va me faire acheter, c'est la composition du produit. Et en fait, je regarde les compositions, je regarde ce qu'il y a dedans. Donc ça va donner envie à mes enfants d'acheter. Quand ils vont voir ça, ils vont me dire « Oh, maman, achète-le !» Mais je leur dirai « Ben non !»
On peut leur demander ?
Oui.
Est-ce que tu aimerais bien avoir, par exemple, ce paquet de céréales ?
Oui.
Il y a aussi le sachet de pommes de terre, les bouteilles d'eau et les œufs avec le petit label vert de Mickey. Maxime Chaumet, secrétaire général du CNPO, l'interprofession des œufs, n'a rien contre la démarche, mais demande de la transparence.
Quand on voit juste Disney sur une boîte d'œufs, moi j'ai envie de savoir ce qui se cache derrière ce label. Et là, en l'occurrence, quand on me dit c'est juste parce qu'on dit que c'est bon, je veux bien, il faut juste qu'on sache exactement pourquoi c'est bon en fait.
Et justement, le cahier des charges du label reste à l'entière discrétion du géant américain.
Reportage de Pierre Herbulot pour Europe 1.
Et dans quelques minutes, nous serons avec François Pursec, sociologue de l'agriculture. Il nous expliquera quels sont les enjeux auxquels est confronté le monde agricole. Merci, c'était le journal de François Geffrier.
Europe 1.
Il est 6h08, Eva Rock.
À suivre cet historique, le fact-checking par l'histoire. Et aujourd'hui, Fabrice Dalméda s'interroge sur cette étrange rencontre. Le 25 février 429, entre Jeanne d'Arc et le roi Charles VII. Que s'est-il passé ce jour-là? Sinon, réponse dans quelques instants sur Europe.
Il est 6h09.
Merci Anissa. Petit point sur la tendance météo du jour, mon cher Laurent Cabrol.
Alors je vais vous donner cette fois les températures maximales, celles de l'après-midi, en sachant que ce matin il fait entre moins 2 et plus 7 degrés, donc il fait froid. Dans la journée, 12 à Cherbourg, 14 à Boulogne, 15 degrés à Caen et Belfort, 16 degrés à Dijon, Rennes, Lille et Nantes, 17 à Marseille, à Bourges, à Lyon et Paris, 18 à Nevers, 19 à Bordeaux, 20 degrés à Albi et 22 degrés dans les Landes, du côté de Mont-de-Marsan par exemple. Voilà pour les températures, le temps sera très ensoleillé partout et tout à l'heure je vous parlerai de la suite de la semaine, ce sera moins drôle et même de la semaine prochaine.
Mais merci quand même pour ces bonnes nouvelles Laurent, ça fait du bien. Et sur les réseaux sociaux Anissa, que nous racontent nos auditeurs connectés?
Alors aujourd'hui on leur parle d'Herbert Léonard sur Twitter parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et Herbert Léonard c'est ça. Château Vallon, bien sûr, on adore écouter le matin sous la douche. Du coup, on vous a demandé quel est votre plaisir coupable à vous en matière de chansons. Alors là, je peux vous dire que vous êtes nombreux. C'est un karaoké hein, sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Luola nous dit « Je m'enferme dans ma chambre, je chausse mes lunettes de soleil et j'écoute ça. »
Mais c'est pas une chanson honteuse, ça.
Michel Sardou.
Michel Sardou, ben, que du tube.
Stéphane, bonjour à toute l'équipe. La chanson du Titanic, j'adore et des fois j'ai honte de le dire à mon entourage.
Il a raison.
À mon âge, il me torpille tous. Belle journée. Et puis tiens, allez, un petit duo. Tilde Cat, voici
qu'on
sa chanson.
Quand si j'avais pris la mer, j'ai senti la grande voix.
Garou et Céline Dion.
Et oui,
sous
encore
le
Céline
vent.
Dion.
Mais ouais. Continuez à nous donner vos petits plaisirs coupables en matière de chansons. Hashtag Europe 1 sur Twitter.
Merci Anissa.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Le week-end sportif fut d'une telle densité qu'un troisième journal des sports n'est pas de trop. Et dans tous les cas, c'est contractuel, mon cher Jérôme. Votre présence à 6h11 est convenue et indispensable. On passe donc au journal des sports. Et à la une, le Monaco nouveau est arrivé.
Et oui, les footballeurs monégasques revigorés, 6 mois qu'ils flirtent avec la Ligue 2 en championnat de France de foot, alors ils ne sont pas sortis d'affaire. Mais ils ont enchaîné hier une 3e victoire en 4 matchs de championnat et ils n'ont pas fait chuter n'importe qui. Les Lyonnais battus 2-0 en clôture de la 26e journée. Équipe monégasque séduisante, oui, car transformée, remodelée lors du marché hivernal des transferts avec notamment l'attaquant portugais Gelson Martins venu de l'Atlético de Madrid, il est prêté. Et le retour de l'entraîneur Jardim. Alors lui qui a obtenu 10 points sur 12 possibles depuis qu'il a repris l'équipe. Le défenseur de Monaco, Djibril Sidibé, champion du monde l'été dernier avec les Bleus, hein, respire un peu mieux.
Au niveau, oui, c'est sûr que c'est un second souffle. Ah oui, c'est sûr que ça fait du bien. Mais bon, voilà, il reste encore des matchs. On profite de notre situation avec un match par semaine pour bien se préparer. Puis voilà, continuer à lutter jusqu'à la fin.
Et les Monégasques sont ce matin 16e à 5 points du 19e. Les Lyonnais, eux, ils restent 5e, mais désormais à 5 points des Lillois 2e. Une 2e place qui, on le rappelle, c'est ça l'enjeu, hein, directement qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions.
Mais en revanche, fin de série pour les Marseillais.
Et Mathieu s'en bat, et voilà, les Marseillais font nul. Un nul après 3 victoires, 1 partout à Rennes. L'OM 5e à 5 points du podium, à égalité de points avec les surprenants Rémois 6e, victoire de Reims hier 4-2 à Montpellier. Par ailleurs, Nantes-Bordeaux 1-0 et Toulouse-Caen 1 partout. En Angleterre, Manchester United, bien embêté par des absences à 9 jours du 8e de finale retour de Ligue des Champions à Paris face au PSG. En plus de Pogba suspendu, ça on le savait, le défenseur Matic est blessé depuis 2 jours. 4 joueurs ont subi en plus hier des pépins physiques en championnat, dont les précieux joueurs offensifs Mata et Rashford. C'était lors du choc contre Liverpool 0-0. Et puis à noter Manchester City qui a conservé son titre en Coupe de la Ligue anglaise, victoire au tir au but contre Chelsea.
Alors du côté du rugby, les joueurs du 15 de France sont au repos.
Oui, des Bleus encore convalescents après leur succès samedi après-midi contre l'Écosse dans le tournoi des Six Nations. Ils bénéficient d'une semaine de récupération. Jean-Baptiste Elissalde, l'un des entraîneurs, alerte sur tout risque de relâchement.
Les intensités qu'on touche dans ces matchs en ce moment, elles ne sont pas communes à nos joueurs. Ils ont besoin de l'encaisser pour se régénérer. Voilà, j'espère qu'ils ne vont pas juste rentrer chez eux pour se mettre dans le canapé et qu'ils vont s'en rajouter et qu'ils ont déjà comme ligne de mire pas le week-end d'après mais les prochains mois qui arrivent et leurs prochaines années de rugbyman.
Et prochain match destination en Irlande, le 10 mars, ces Irlandais qui hier ont gagné en Italie 26-16, ont joué aussi en championnat de France hier de rugby, 17e journée de top 14 et la victoire de Lyon sur Clermont 19-13. Du handball et les Montpelliérains tenant du titre devront aller chercher la qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions samedi à Skopje en Macédoine. Ce sera le dernier match du premier tour. Hier, ils ont perdu à domicile contre Barcelone 36-28.
L'histoire du jour, Jérôme.
L'histoire du possible 100e titre en carrière pour Roger Federer. 100e tournoi, la superstar suisse du tennis entame aujourd'hui cette histoire au tournoi de Dubaï face à l'allemand Cole Schreiber. Ils se sont affrontés 13 fois.
Federer, il a gagné 13 fois.
13-0.
Bah, évidemment. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Jérôme, si vous demandez que faisait Jeanne d'Arc un 25 février 1429, vous allez avoir la réponse grâce à Fabrice Almeida. Un bond dans le passé pour mieux comprendre les enjeux du présent et décrypter d'une certaine façon notre actualité. C'est la mission de Fabrice. Europe 1.
Je vous ai compris. Ich bin ein
Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Almeida.
Bonjour à tous.
Ce matin, c'est un événement de l'histoire de France qui a retenu votre attention. Le 25 février 1429, Jeanne d'Arc arrivait à Chinon et reconnaissait le dauphin, l'héritier du trône. Mais quelle est la signification de cet événement ?
Dans la vie de Jeanne d'Arc, cet événement est crucial. C'est un de ses premiers miracles qui va la distinguer du commun des mortels. Rappelez-vous, Jeanne, la petite paysanne, est parvenue à traverser les lignes anglaises avec une petite escorte. Elle est partie de Vaucouleurs, une zone favorable au dauphin, l'héritier du trône de France détrôné par les Anglais, pour aller le voir à Chinon. Le dauphin, Charles, avait accepté sa venue, mais quand elle arrive, le 23 février, il hésite à la recevoir.
Mais pourquoi cette hésitation ?
Sans doute par crainte de se ridiculiser avec une faussaire, alors que l'heure était grave. Il venait de perdre une bataille essentielle pour soutenir Orléans, son verrou sur la Seine, assiégé par les Anglais et proche de la défaite. Mais après 2 jours de réflexion, il accepte l'entrevue. Depuis le XVe siècle, l'histoire populaire veut que le roi l'ait reçue au milieu de ses seigneurs, cachée, pour voir si elle le reconnaîtrait. Or, c'est ce qui se produisit. La jeune fille passa l'épreuve et elle lui baisa même les genoux quand le dauphin mentit en prétendant n'être rien. Les auteurs catholiques présentaient cette scène comme un miracle. Mais à la relire aujourd'hui, elle porte un autre sens.
C'est-à-dire ?
Mais en fait, ce n'est pas Jeanne qui passait une épreuve spirituelle, mais le dauphin qui passait au crible de la popularité. Jeanne incarnait le peuple dans ce milieu élitiste. Le fait qu'elle reconnaisse le prince lui apportait la preuve du soutien populaire. C'était comme si le souverain était investi de la ferveur de ses sujets. À l'inverse, le dauphin, en reconnaissant Jeanne, l'investissait d'un pouvoir spirituel. C'est ainsi que cette histoire miraculeuse met en scène l'échange de légitimité entre la pucelle et le futur roi. Chacun était le garant de la valeur de l'autre. Le dauphin était sacré et deviendrait roi. La jeune fille accédait au statut de prophétesse. Elle serait bientôt une sainte. Et tout cela est dit dans la rencontre du 25 février 1429.
Et oui, on n'avait pas encore les photos à l'époque. Merci Fabrice d'Almeida. On se retrouve demain pour un autre point historique.
Europe 1.
Il est 6h17, Eva Rock. Debout les copains continuent, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. À 6h20, nous recevrons le sociologue et maître de conférence à l'École normale supérieure agronomie de Toulouse, François Purseigle. Alors que le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes samedi, nous tenterons de comprendre avec lui les enjeux auxquels est confronté le monde agricole en France. Existe-t-il un profil type de l'agriculteur aujourd'hui? Est-ce encore un métier d'avenir? Les questions sont diverses et nombreuses et les réponses dans quelques instants.
Et il est 6h18, l'essentiel de l'actualité de ce 25 février avec vous Eva Rock.
La cérémonie des Oscars vient de se terminer à Hollywood. Le film Green Book de Peter Farrelly est Oscar du meilleur film, un film européen. Rami Malek est meilleur acteur pour son rôle de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Et Olivia Colman est sacrée meilleure actrice après sa prestation de la reine Anne dans La Favorite. La Corse en proie à des incendies de forêt. Il y a eu 48 départs de feu depuis samedi soir attisés par des vents violents. 1500 hectares de végétation ont brûlé, principalement dans la région de Calenzana, dans le nord-ouest de l'île. Et puis le salon de l'agriculture continue jusqu'à dimanche, ouvert de 9h à 19h. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui va y entamer une visite étalée sur 3 jours.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Voilà pour les principaux titres de ce lundi 25 février. L'actualité, on vient d'en parler, c'est le salon d'agriculture qui a débuté samedi, porte de Versailles à Paris. Mais à quoi ressemble l'agriculture en France aujourd'hui? Qui sont les exploitants? Quel est leur avenir? Quel regard portons-nous sur cette profession en plein bouleversement? Bonjour François Purseigle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes sociologue de l'agriculteur, ingénieur agricole de l'agriculture, ingénieur agricole également. Est-ce que le monde paysan existe toujours?
C'est une bonne question. Il existe, mais sous des formes très très variées. Aujourd'hui, un agriculteur, ce sont des agricultures, ce sont des modes de vie très très différents, des formes économiques très très différentes également. Un agriculteur, c'est tout à la fois un grand chef d'entreprise, mais ça peut être quelqu'un bénéficiaire du RSA, ça peut être tout à la fois un artisan, quelqu'un qui va vendre ses produits sur un marché. C'est un monde très divers. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne fait plus le choix de l'agriculture pour les mêmes raisons qu'hier. On n'est pas assigné à une fonction, on n'est pas assigné à un état, on choisit d'être paysan.
Et j'imagine qu'on ne peut pas faire un profil type de l'agriculteur en 2019.
Non, d'autant plus que l'agriculture est sujette à un éclatement des structures d'exploitation. Il n'y a jamais eu autant de micro-exploitations et de très très grandes exploitations. Et au milieu de tout ça, on a une exploitation familiale qui s'efface. Pourquoi? Parce qu'elle traverse des difficultés sans précédent, une crise en matière aussi de reprise des exploitations de type
moyenne. Oui, les transmissions,
moyenne.
C'est compliqué. Hein.
C'est compliqué, ça ne va pas de soi aujourd'hui, même si en fait il y a un désir d'agriculture. On a des jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas forcément reprendre sur des schémas classiques qui sont ceux de leurs parents, voire même de leurs grands-parents.
Oui, les derniers chiffres qu'on a eus, c'est 30 000 exploitations qui cessent leur activité tous les ans. Le déclin de la population agricole est une réalité. Et en même temps, 70 000 offres d'emploi cherche toujours preneur.
Oui,
est-ce que l'agriculture, je vais y arriver, a un avenir selon vous?
Oui, et il a un avenir autour de nouvelles fonctions qui sont celles du salariat agricole. On voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises agricoles, si elles ne trouvent pas forcément de repreneurs, ont recours à de la main-d'œuvre salariée. Et le salariat aujourd'hui en agriculture est synonyme d'une haute technicité, d'une mixité des statuts, etc. Être aujourd'hui salarié dans une exploitation agricole, c'est être titulaire d'un BTS, voire même d'un diplôme d'ingénieur. Et donc, en fait, il y a une place beaucoup plus grande pour d'autres métiers qu'hier.
Alors, c'est ce que j'allais vous demander, parce que comment attirer les jeunes exploitants? C'est aussi ça la problématique. Est-ce que l'apport des nouvelles technologies, notamment, et peut-être une pénibilité des tâches qui est réduite par rapport à il y a quelques années, peuvent séduire justement une population plus jeune, selon vous?
Oui, le recours aux nouvelles technologies, mais aussi la capacité des exploitants à mieux s'organiser au sein de leur exploitation. Les technologies ne font pas tout.
Oui.
On a aujourd'hui une capacité plus grande à mutualiser les outils de production, donc indépendamment des technologies, la capacité qu'auront les agriculteurs à se regrouper, à s'organiser, à se fédérer, permettra aussi d'attirer davantage.
François Purseigle, nous en parlons régulièrement dans les médias. Un agriculteur se suicide tous les deux jours en France. Vous qui travaillez sur ces questions-là depuis des années, est-ce que le mal-être de cette profession est nouveau ou c'est simplement parce que dans les médias, on en parle plus facilement ?
Ben, disons qu'aujourd'hui, il s'exprime différemment ce malaise. On voit bien que les agriculteurs sont un peu indéterminés dans ce que je vais appeler leur position sociale. Il faut en permanence qu'ils se justifient. Indépendamment et au-delà des crises économiques, s'ajoutent des crises à la fois morales. C'est un métier, ce sont des métiers controversés. Aujourd'hui, être éleveur, ça ne va pas de soi. Il y a 20 ans, 30 ans, les éleveurs traversaient des crises économiques, parfois sans précédent. Et là, aujourd'hui, on remet en question leur activité même. Et ça, c'est très très dur. Au moment même où, sur les exploitations, ils sont de plus en plus seuls.
Vous pensez aux crises sanitaires, notamment
crises sanitaires, à la controverses sociotechniques, ouais. Défiance autour d'une alimentation, alors même que les agriculteurs sont attendus. Et c'est ça qui est difficile à vivre aussi pour des agriculteurs, à qui on en demande toujours plus, alors même qu'ils sont seuls dans des exploitations, et qu'ils sont amenés à se justifier en permanence. À se justifier auprès du grand public, à se justifier auprès de leurs conjoints et conjointes, à se justifier auprès de leurs banques. Bref,
il y a beaucoup de pression.
Voilà, il y a une pression qui s'exerce différemment. Et donc, quand vous êtes seul pour vivre cette pression-là, contrairement aux années 40 ou 50 où vous étiez en famille et en famille élargie, eh bien, c'est plus dur à vivre.
Est-ce que le salon de l'agriculture, je ne vais jamais y arriver, est-ce le salon de l'agriculture est le reflet, d'après vous, vraiment de l'agriculture française aujourd'hui, ou c'est surtout une sorte de jolie vitrine qui permet aux politiques de venir se montrer ?
Ben, ça renvoie quand même à ce que veulent en faire les agriculteurs. Je pense que c'est aussi pour eux l'occasion de se retrouver. Ça incarne d'une certaine manière aussi une diversité qui est bien et bien présente. Alors à côté du salon d'agriculture, vous avez aussi le CIMA, le salon du machinisme agricole à Villepinte, qui donne à voir une autre réalité du monde agricole. Mais voilà, vous avez d'une certaine manière l'ensemble des agriculteurs qui sont bel et bien présents.
François Purseigle, vous me permettez de vous poser une question plus personnelle. Oui. Pourquoi vous êtes intéressé à ces questions ?
Ah, c'est peut-être parce que je suis aussi fils de paysan et que j'avais envie de connaître aussi ce milieu différemment.
C'est-à-dire que le fait d'être issu de ce milieu vous donne des clés de compréhension qu'on n'a pas, ou la sociologie est venue éclairer en fait votre regard ?
Non, je pense que j'avais pas forcément tous les outils pour comprendre effectivement ce milieu. C'est aussi pour ça que je suis devenu chercheur dans cette discipline.
Est-ce que vous pourriez quitter votre poste de sociologue pour revenir à la Terre ?
Ah, pourquoi pas, tout dépend des conditions.
C'est quoi, là, que tout dépend des conditions ?
Bah écoutez, celle de pouvoir aussi, pourquoi pas commenter les évolutions de ce milieu.
Merci beaucoup François Purseigle d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Je renvoie les auditeurs à deux de vos publications, Le nouveau capitalisme agricole de la ferme à la firme aux presses de Sciences Po et Sociologie des mondes agricoles chez Armand Collin. Bonne journée.
Merci.
Europe 1.
Il est 6h25, Eva Rock.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient avec notre expert maison, Laurent Cabrol.
Il est 6h26, Eva Rock.
Avant de retrouver le journal de 6h30, voici la météo de Laurent Cabrol avec plein de bonnes nouvelles.
Oui, commençons par celle d'aujourd'hui, puisque, chers amis, vous allez certainement connaître une journée, peut-être pas la plus chaude. La plus chaude sera mercredi, mais enfin une journée chaude après une matinée froide. C'est tout à fait normal, c'est la saison. Alors, moins 2 à Mulhouse en ce moment, moins 2 du côté de Charleville, Nevers, Vichy, Reims, Beauvais, enfin bref. Et puis des températures de 3 à Cognac, de 4 à Lille, de 5 à 6 à Paris et de 8 degrés à Nice dans la journée, entre 12 et 14, 15 au nord et entre 17, 18, 19, 20, même 22 au sud, 22 dans les Landes, 20 degrés à Albi, 19 à Toulouse par exemple et 17 à Paris.
Ça fait du bien.
Ça fait effectivement beaucoup de bien. Demain, ça sera exactement la même chose. Mercredi, je dis que ce serait plus chaud, ce sera plus chaud. Mercredi, jeudi, changement de temps. Le temps va changer radicalement et nous allons retrouver maintenant un temps humide avec des nuages, avec de la pluie, mais très peu de pluie, hein, avec surtout beaucoup de nuages. Ça, c'est pour jeudi. Vendredi, ça va se restaurer un tout petit peu. Et puis samedi, dimanche, patatras, ça va pas bien du tout. Alors là, nous changeons de situation. La situation que nous avons vécue de beau temps, chaud, c'était quelque chose que nous avions envisagé à partir du 15 février. Et comme dit José Coves, si tu as la main, tu la gardes. Alors, je vais garder la main et je vais vous dire pour la semaine prochaine, malheureusement, c'est pas vous du tout. Alors, ceux qui vont prendre des vacances la semaine prochaine, je sais pas s'il y en a encore.
Il y a Anissa qui râle. Je vous le dis tout de suite.
Je prends pas de vacances, mais je râle quand même.
Oui.
Ce sera pas très beau la semaine prochaine. Ah, et nous renouerons. Alors, j'ai encore une nouvelle à vous donner, c'est qu'il n'y a pas de vague de froid à l'horizon. Pour l'instant.
Voilà. Bon, pour l'instant. Merci beaucoup.
Mais c'est pas bon.
Voilà. Merci Laurent. Restez avec nous dans une minute, le journal de 6h30. Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'information et de bonne humeur. Après, le journal du brillant David Doucan. Et oui, il faut bien garder quelques habitudes instaurées par Mathieu Noël, dont l'emphase quand il s'agit de présenter David Doucan.
C'est pas de l'emphase.
Vous retrouverez vos trois fantastiques. Politique, économie, médias. Nos experts décortiquent l'actualité pour vous. Ce matin, Adrien Beck reviendra sur les difficultés des Gilets jaunes à concrétiser sur un plan politique leur mouvement. Axel de Tarlet fera de la prospective. Quels seront les pays les plus forts économiquement en 2030? Quant à Aurélien Fleurot, il a vu avant nous l'émission Le Monde de Jamy que diffuse France 3 ce soir. Il nous dira si ce programme mérite qu'on s'y arrête.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30.
Voici le
5h-7h, Eva Rock.
J'étais pressée de voir David Doucan. Avec vous, David Doucan, le journal. Bonjour David.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
Les dernières heures de l'État islamique, les djihadistes sont retranchés dans le village de Barhouz. Europe 1 est sur place. Reportage sur le champ de bataille de Didier François dès le début de ce journal. Des feux de forêt en plein mois de février. Les incendies font rage en Corse. 1500 hectares de végétation ont été dévastés. Le sinistre n'est pas encore maîtrisé. Témoignage sur place dans cette édition. Et enfin, le salon de l'agriculture, la filière viande, lance une opération reconquête, une campagne de communication pour contrer les arguments des veggies. On vous explique tout dans un instant.
Europe 1.
Le dernier bastion a pris les allures d'un réduit de 500 mètres carrés, le village de Barhouz, à la frontière irako-syrienne, dans lequel sont terrés les derniers djihadistes de l'État islamique. Quelques 2000 personnes en tout, encerclées par les forces arabo-kurdes. Avec nous, Didier François, vous êtes sur place. Didier, pour Europe 1, à quoi ressemble cet ultime champ de bataille ?
Alors en fait, ce champ de bataille, c'est une immense plaine parsemée de grosses fermes qui ont toutes été fortifiées par les djihadistes et qui forment une véritable ceinture de défense autour du village de Barhouz, une grosse bourgade agricole à l'est de la Syrie, à quelques kilomètres seulement de la frontière irakienne. Et dans ce dernier réduit de l'État islamique sont concentrés quelques 500 combattants, beaucoup d'étrangers, dont quelques Européens, des fanatiques plutôt aguerris et qui n'ont plus nulle part où aller, ce qui en fait des adversaires redoutables. On les voit d'ailleurs assez peu depuis les positions kurdes qui cernent totalement la localité. Parfois une moto qui passe rapidement ou une ombre qui se faufile entre deux bâtiments parce qu'évidemment il y a dans le ciel une telle concentration d'avions et de drones de la coalition antiterroriste qu'ils ne peuvent pas rester très longtemps à découvert. En revanche, on devine parfaitement à une centaine de mètres les réseaux de tranchées qui ont été creusés entre les différents postes de combat, d'ailleurs souvent installés dans des habitations.
Didier François, merci à vous en direct de Barhouz à la frontière irako-syrienne. J'ajoute que depuis mercredi, quelques 5000 personnes ont été évacuées de ce réduit, des femmes, des enfants, mais aussi des hommes qui se sont rendus, parmi eux de nombreux occidentaux, et les forces anti-djihadistes en Syrie ont exhorté les gouvernements étrangers à, je cite, « assumer leurs responsabilités », traduction, les rapatrier en Occident. La parole est à l'accusation à Bruxelles. Le procès de Mehdine Mouche, accusé d'avoir perpétré la tuerie du musée juif. Aujourd'hui et demain, les procureurs présenteront les preuves recueillies contre le djihadiste français pour le faire condamner. Au Sénégal, le président sortant Macky Sall revendique la victoire. Dès le premier tour de l'élection présidentielle qui se tenait hier, au début du mois de février, l'ancien président Abdoulaye Wade avait appelé au boycott du scrutin, le jugeant verrouillé. Je crois que le dérèglement climatique est à l'œuvre. Déclaration de la préfète de Corse, Josiane Chevalier. Depuis samedi soir, en plein mois de février, les feux de forêt font rage dans l'île. Au moins 1500 hectares de végétation ont été dévastés. Écoutez Pierre Guidoni, le maire de Calenzana, commune la plus touchée.
C'est du jamais vu. Je vous dis franchement, parce qu'il y a beaucoup de dégâts sur la commune. Des arbres arrachés, des toitures, des tuiles embolées. C'était virulent.
Et est-ce que le temps était particulièrement sec pour un mois de février?
Bien entendu, il y a une sécheresse quand même. Hein. S'il avait plu à cette époque, il n'y a pas d'incendie. Ah, mais c'est impressionnant. Ça me faisait penser au feu que le Portugal vit de temps en temps et aux États-Unis. On a pris un coup dans l'aile là. L'île de beauté, à cette allure, ça ne sera plus la même.
Pierre Guidoni, le maire de Calenzana en Corse, au micro de Pierre Herbulo. Ces incendies sont la conséquence de 48 départs de feu. 8 enquêtes ont été ouvertes pour en déterminer précisément l'origine, criminelle ou accidentelle. Les syndicats de Ford Blanquefort sont reçus aujourd'hui à Bercy. Les 850 salariés ont toutes les raisons d'être inquiets. Ford a rejeté la semaine dernière le plan de reprise proposé par le Belge Punch. C'était le seul repreneur. Il ne subsiste plus guère d'espoir. Très peu de chances de sauver ce site industriel. Emmanuel Dutheil.
On ne va pas réussir à sauver l'usine, voilà le sentiment dans les couloirs de Bercy. Ford Blanquefort, c'est fini, ajoute une autre source. Et dans l'entourage du ministre de l'économie, on n'a pas de mots assez durs pour dénoncer l'attitude de Ford. Ils ont torpillé le dossier, ils ont décidé de quitter la France, c'est inadmissible. Le repreneur avait pourtant proposé un plan pour sauver l'usine qui fabrique des boîtes de vitesse. Il s'était engagé à garder au moins la moitié des salariés qui soutiennent ce plan de reprise. Mais la direction de Ford ne veut rien entendre. Une offre de reprise les aurait obligés à quitter progressivement la France. Mais là, ils veulent aller vite en refusant la reprise. En septembre, tout sera fini, déplore-t-on à Bercy. On ne sait pas encore comment on va faire, mais on va les faire payer, promet-on malgré tout au ministère de l'économie. En tout cas, après l'échec de la reprise d'Ascoval, c'est un nouveau coup dur pour Bercy, qui s'était là aussi beaucoup engagé dans ce dossier. Mais on préfère perdre en ayant tout tenté, plutôt que de perdre sans mener le combat, reconnaît-on un brin fataliste au ministère.
Mais Emmanuel Dutheil pour Europe 1. Une majorité de Français souhaite que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête, 55% exactement. Dans le même temps, la cote de popularité d'Emmanuel Macron progresse à 32% d'opinion favorable, les enseignements d'un sondage Odoxa publié ce matin.
À suivre dans ce journal, face à la montée du courant vegan, la filière viande s'organise. À tout de suite.
Il est 6h36.
Il est 6h37, Eva Roque.
La suite du journal David Doucan, à l'occasion du Salon d'agriculture, la filière viande contre-attaque.
Oui, on a beaucoup entendu l'argument, manger moins de viande, c'est bon pour la santé et l'environnement. Évidemment, la filière n'est pas de cet avis. Elle lance une campagne de communication avec le slogan « Aimez la viande, mangez mieux ». Une campagne directement à destination de ceux qui ont décidé de limiter leur consommation. Anne-Laure Jumet.
En 10 ans, la consommation de viande a baissé de 12%. Et les habitudes des Français ont changé, explique Pascal Hébel du département consommation du Crédoc, le centre d'observation des conditions de vie.
Les gens se font plaisir en mangeant de la viande le dimanche, le veau, le poulet rôti. Mais c'est plutôt dans le quotidien ou dans une journée active, on réduit sa consommation de viande. Alors il y a certaines catégories qui l'ont réduit pour des raisons économiques, hein, puisqu'on voit qu'il y a une baisse de 20% chez les ouvriers entre 2007 et 2016. Et pour les catégories cadres, chez qui ça baisse de 20%, ce sont des raisons qu'on appelle éthique, hein, globale, l'écologie et la santé qui font que ça baisse très vite.
Les consommateurs sont en effet de plus en plus attentifs à la traçabilité, au bien-être animal, comme ce cadre dans la finance rencontré dans une boucherie parisienne.
J'aime bien savoir d'où vient ma viande, quand elle est française, quand je sais qu'elle n'a pas traversé 6 pays avant d'arriver dans mon assiette, surtout au respect de l'animal avant tout.
Et les Français compensent en mettant d'autres produits dans leur panier, des légumineuses, des steaks végétaux. Le marché dit veggie explose. 6 foyers sur 10 ont acheté un produit de ce type au cours des 12 derniers mois.
Anne-Laure Jumet pour Europe 1. Peut-être avez-vous la chance d'être en vacances au ski, ou plutôt, ma chère Eva, devrais-je dire, à la montagne. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas skier.
Évidemment.
C'est 2 personnes sur 10 aux Alpes, à l'Alpe d'Huez, par exemple, qui vont en station, mais délaissent la glisse.
Petite terrasse au soleil.
Exactement. Reportage Hélène Terzian.
Ils se suivent sur les pistes en file indienne derrière un moniteur. Mais au pied, pas de ski, mais des raquettes. Dans ce groupe de vacanciers, le ski, ils ne savent pas en faire. Cela les ennuie ou les effraie. Une bonne façon pour Patricia de profiter de la neige autrement.
Je reste complètement tétanisée quand il s'agit de la glisse. Du coup, les raquettes, ça permet de faire du sport, de profiter pleinement de la nature. Et puis de s'éloigner aussi de toute la cohue. Mes enfants et mon mari, eux, ils vont skier tous les jours, le matin et l'après-midi. Et moi, je vais avoir mon programme de raquettes avec les guides au moins une fois par jour. Puis le reste du temps, je vais faire des balades et essayer de sortir un peu toute seule.
Parmi les autres activités développées dans la station pour les non-skieurs, celle liée au bien-être, pendant que son mari et ses filles dévalent les pistes, Séverine se relaxe dans un spa plusieurs fois dans la semaine. Elle profite de la montagne sans ses désagréments.
Il y a une vue qui est vraiment prodigieuse, donc tout en ne faisant pas de ski, on prend soin de moi et j'ai quand même la vue sur les montagnes, c'est juste fantastique. C'est une véritable opposition au stress du ski. Le froid, le matériel à gérer, les embouteillages sur les pistes.
Il y a en tout cas une chose que Séverine partage en altitude avec sa famille. famille, c'est le soleil qui brille sur la station depuis plusieurs semaines. L'Alpe d'Huez et l'Interzian Europe.
Et maintenant, les Oscars à Los Angeles. Meilleur film, Green Book, l'histoire vraie d'un pianiste noir en tournée dans le sud ségrégationniste des États-Unis. Meilleure actrice, Olivia Colman pour sa performance dans La Favorite. Meilleur acteur, Rami Malek, bien sûr, pour son interprétation de Freddie Mercury, le leader du groupe Queen, dans Bohemian Rhapsody. Et le Mexicain Alfonso Cuarón, Oscar du meilleur réalisateur pour Roma. Un mot de football, la 26e journée de Ligue 1. Match nul pour l'OM, un partout contre Rennes. Et l'Olympique Lyonnais a été battu à Monaco 2-0.
Merci, c'était le journal du formidable David Decamps.
Excellent,
excellent, magnifique. Pour lui, moi. Ouais. N'en faites pas trop.
David, incroyable. Vous avez remarqué quand même que tout le monde a déserté. Mathieu Noël, oui. Céline D'Acosta, entre autres. Mais là, vous êtes là, solide, en forme. Ouais, très en forme. On vous retrouve pour le journal de 8h. Et à 8h15, vous mènerez l'interview politique du jour. Qui est votre invité ce matin?
C'est Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse.
Merci David, on vous retrouve à 8h15. Enfin, 8h et 8h15. En attendant, on passe à la météo avec vous, Laurent Cabrol. Oui. Quelle est la tendance du jour?
Simple, il fait beau, il fera beau, le ciel est dégagé. Il le restera. Sur les cartes, très peu de brouillard ce matin. Des températures froides, entre moins 2 et plus 7 degrés. Ce sont des températures identiques à celles des 6 jours derniers. Et dans la journée, ça montera vraiment entre 12, 16, 17 au nord. Nous aurons du 16 degrés à Dijon, à Rennes, à Nantes, à Lille, 15 à Caen par exemple, et 12 degrés à Cherbourg. Et nous irons jusqu'à 17 à Paris et 19 à Toulouse, et même 22 degrés du côté des Landes. Sachez que demain et après-demain, nous aurons le même type de temps, mais ensuite, ça va changer.
Merci beaucoup, Laurent. Anissa, que nous disent les auditeurs depuis 5 heures ce matin, que vous leur posez une question sur Twitter avec l'hashtag Europe 1.
On parle musique, et la question que je vous ai posée ce matin, c'est quel est votre petit plaisir coupable en matière de musique, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Herbert Léonard. Et on adore écouter Herbert Léonard, mais seul. Hein. Seul en voiture ou sous la douche. Alors, Apax nous dit que son plaisir coupable, et ça, je suis sûre que vous allez aimer, c'est ça.
Quand je la regarde, moi, l'homme lourd.
Le c'est très années 80 quand même.
Ah ouais, les plaisirs coupables sont tous des années 80, on a l'impression. Hein. Jacques Lafont, le géant de papier. Mika nous dit, alors moi c'est pas du tout mon style, mais j'avoue beaucoup aimer une chanson que d'aucuns considèrent comme kitsch. C'est une chanson de Pierre Bachelet. Elle est d'ailleurs, ça c'est son plaisir coupable. Mistral nous parle d'Hélène de Rock Voisine.
Ah mais oui.
Seule sur le sable. Puis je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Mon Voici Dieu. Le plaisir coupable d'Ipso.
Oh, vous n'avez pas le droit. Ça met
là,
en
c'est
forme
coupable,
de
condamnation directe.
Ah, mais Aurélien Fleureau, vous avez tellement raison. Qu'est-ce que c'est cette histoire?
C'est condamnation
à
vie.
Je ne vous dis pas merci, Anissa. Allez, on poursuit.
Europe 1.
Il est 6h43. Eva Roth, cette fille est folle. Vous écoutez Debout les copains, 2 heures au carrefour de l'info et de l'humour, comme vous avez pu le constater, de la rigueur et de la légèreté avec mes complices de la semaine, Anissa Haddadi, Aurélien Fleureau. À suivre, politique, économie, médias, l'actualité vue par nos trois fantastiques. Au programme notamment ce matin du décryptage et de la prospective, Axel de Tarlé se mue en Madame Irma et nous annonce le top 10 des économies mondiales en 2030.
Il est 6h45, l'essentiel de l'actualité, Eva Roch.
Les incendies en Corse, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Depuis samedi, 1500 hectares de végétation au moins ont été dévastés. C'est un couac gouvernemental. La ministre des Territoires, Jacqueline Gourault, a proposé hier matin de faire payer l'impôt sur le revenu à tout le monde, même un euro symbolique pour les plus pauvres. Idée immédiatement retoquée par Matignon. La parole est à l'accusation à Bruxelles. Le procès de Mehdi Nemmouche, accusé d'avoir perpétré la tuerie du musée juifs. Aujourd'hui et demain, les procureurs présenteront les preuves recueillies contre le djihadiste français pour le faire condamner.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Roch.
Il est 6h45, l'heure de retrouver nos super-héros de l'info. Voici les trois fantastiques: Aurélien Fleureau, spécialiste média, Adrien Beck, spécialiste politique, et Axel de Tarlé, spécialiste économie. Axel, vous êtes le rescapé de la bande, professionnel jusqu'au bout. Ça méritait un petit cadeau, un petit cake au chocolat, regardez, pour vous.
Je suis très bon, merci.
Et voilà, je sais, il faut bien un petit chouchou, vous savez.
Il est un peu fondu.
Il est un peu fondu.
Mais c'est
à cause de la chaleur dans ce studio. Messieurs, vous avez fait la chasse aux infos ce matin. Dans un instant, nous parlerons du futur avec vous, Axel, l'économie en 2030, mais comme le veut le tour de table habituel, nous débutons avec la politique et vous, Adrien Beck. Et si les Gilets jaunes étaient passés à côté de leur traduction politique? Alors certes, ce week-end, la mobilisation a légèrement frémi, près de 47 000 manifestations dans toute la France, mais à ce stade et à 3 mois des élections européennes, la concrétisation politique du mouvement se fait attendre, Adrien.
Oui, qu'il semble difficile de s'ériger contre l'implacable mécanique de la vie politique et ses corollaires, division, désunion et in fine dislocation, voilà ce qui semble guetter les gilets jaunes. Ils ne voulaient pas de leader, ils en ont eu 10, 20 au gré des semaines. Une liste, pourquoi pas, pour les élections européennes. Eh bien, on en compte au moins 6 en gestation, oui. Dont l'une d'elles, le RIC, le ralliement d'initiatives citoyennes mené par Ingrid Levavasseur, égérie entre-temps devenue paria, s'est retrouvée démembrée avant même d'avoir existé. Illustration d'un mouvement où chacun refuse à l'autre la légitimité de le représenter. Certains gilets jaunes, dragués par des partis comme Debout la France, espèrent peut-être tirer leur épingle du jeu. De toute façon, à mesure que la mobilisation s'atténue doucement, se radicalise parfois, les intentions de vote pour une liste gilets jaunes s'effondrent entre 3 et 4% selon plusieurs sondages publiés ce week-end. Et sur ces entrefaites, voilà Éric Drouet, leader sulfureux mais écouté, qui annonce qu'il pourrait appeler à voter pour Monsieur Frexit, François Asselineau, énarque, inspecteur des finances, ajoutant du même coup un clou au cercueil d'une liste gilets jaunes. Conclusion gourmande d'un conseiller de l'exécutif, ça part complètement en freestyle.
Mais alors Adrien, à qui profite cet échec annoncé au fond ?
Alors on verra ce qui ressortira du grand débat national si cela change les équilibres, mais il semble à ce jour que les élections européennes pourraient se jouer entre la liste la plus europhile et la liste la plus europhobe, c'est au fond assez traditionnel, entre La République En Marche et le Rassemblement National, schéma prévu et souhaité de longue date tant à l'Élysée qu'à Nanterre. Le chamboule-tout des gilets jaunes n'aurait pas lieu, c'est tout ce qu'on espère, pour être honnête, dans l'état-major du RN notamment, au risque de décevoir, de dégoûter peut-être une partie des électeurs qui avaient cru en ce mouvement, et de quoi voir ressurgir au soir des élections européennes cette formule politico-journalistique éculée. Le grand vainqueur ce soir, c'est l'abstention.
Oui, malheureusement. Merci beaucoup Adrien Beck, il est à vos côtés, il piave d'impatience, il n'a pas touché à son petit cake au chocolat. Axel, l'économie ce matin, c'est de la prospective. Quelles seront les plus grandes économies du monde en 2030 ? Et a priori, l'Europe aura disparu des écrans radars.
Oui, alors en 2030, c'est dans pas longtemps, hein, c'est dans 11 ans si je calcule bien. Et c'est la banque anglaise Standard Chartered qui a fait des prévisions pour voir le top 10. Alors elle a utilisé comme méthode, il faut quand même que je précise, la méthode des parités de pouvoir d'achat.
Parce c'est que vous à savez, dire
ben, c'est-à-dire qu'on réajuste la richesse en fonction du coût de la vie dans chaque pays. Parce qu'avec 1 euro en Inde, vous faites beaucoup bien plus sûr de choses qu'avec 1 euro en France. Donc on réajuste les monnaies. Et donc en faisant ce petit travail, eh bien en 2030. Alors, à votre avis, quels sont le top 3 des plus grosses économies du monde ?
La Chine.
Chine. Ouais. Alors, ouais. Non, on va voir si vous avez le bon ordre. Numéro 1, Chine. Numéro 2,
États-Unis.
Et l'Amérique n'est plus que 3e. Alors, ensuite, il y a des surprises. Ce sont vraiment des petits nouveaux qui arrivent dans le top 10. La 4e plus grosse économie du monde, Indonésie. Turquie en 5e. 6e, Brésil. 7e, Égypte. 8e, Russie. Et enfin, 9e et 10e, on retrouve nos classiques. Et on retrouve en 9e, le Japon. Et en 10e, l'Allemagne. Vous voyez,
à quoi
dans
va ressembler le G7?
Ah, mais oui.
Ah, ben, il
n'y
a
oui
plus aucun Européen. Mais oui, même, mais de justesse, dans le top 10 mondial, vous n'avez plus qu'un Européen, c'est l'Allemagne.
Et on est où, nous?
Nous, on n'est même plus dans le top 10. Alors, ils sont arrêtés là. Nous, on est perdu derrière. Ça veut dire que le monde, dans 10 ans, sera très asiatique. L'Asie pèsera autant que l'Europe et l'Amérique du Nord. Et donc, vous voyez, quand vous avez cette perspective, vous vous dites, c'est quand même bien dommage qu'au moment où voilà ce qui nous attend, eh bien, on décide de désintégrer l'Europe. Et c'était exactement le cri d'alarme de Tony Blair hier. Je ne sais pas si vous avez lu son interview dans le journal du dimanche, qui dit, c'est incroyable, on est en train de faire une erreur historique vis-à-vis de la génération suivante. On est en train de désintégrer cette seule chance que nous avons qui est d'exister pour le siècle suivant. Et du coup, d'ailleurs, il dit, avant de faire vraiment cette erreur historique, Tony Blair, il a un petit conseil, il dit, et si on redemandait une deuxième fois aux Anglais de voter,
en disant,
vous êtes bien sûr de vraiment vouloir sortir de l'Union européenne? Voilà.
C'est un scénario que beaucoup réclament, hein, de faire revoter au Brexit. Mais enfin, je pense que c'est définitivement
enterré
cette idée.
Il y a peu de chance,
hein,
parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est antidémocratique.
Bien sûr.
Quand on a voté, on a voté.
Exactement.
On ne vous fait pas revoter une deuxième fois en disant cette fois-ci, votez bien. Vous voyez.
Exactement. Ouais. Merci beaucoup Axel de Tarlé. Enfin Aurélien Fleureau, vous avez déjà regardé les programmes télé du soir, ce qui vous donne un super pouvoir supplémentaire. Et surtout un atout considérable pour nous, car vous pouvez nous dire si par exemple le monde de Jamy sur France 3 ce soir, vaut le détour.
Mon premier super pouvoir, c'est de pouvoir vous remplacer, hein, déjà quand même sur cette
chronique. Oui, je ne suis pas sûr, mais bon.
France 3, 21h, le numéro du monde de Jamy consacré à ces animaux qui nous font du bien, qui nous protègent, qui nous sauvent, qui nous soignent. Les équipes de Jamy Gourmaud et Églantine Émeillé ont suivi pendant plusieurs mois la formation de Nook. Lui, c'est un jeune chien d'avalanche, et de Mezzo, un chien guide d'aveugle. Vous ferez aussi connaissance avec Lyoda. C'est un Malinois qui est membre des forces spéciales au sein du 1er RPIMA de Bayonne. Il intervient sur des zones de guerre.
Sit, look, né, c'est ça.
Yoda a appris ce langage codé et il réagit instinctivement aux ordres qu'il reçoit par Tokiwalki.
C'est ça, tout noir.
Là, en fait, on va employer ce système pour s'assurer que ce bâtiment est vide. Donc, ça nous permet de checker un bâtiment sans se mettre en danger et sans surtout se dévoiler et faire de grosses manœuvres.
Et puis, il y a aussi ceux qui soignent, comme Medley, l'un des trois premiers chiens formés en France pour détecter le diabète. C'est un caniche royal qui a tout simplement changé la vie d'Hugo en anticipant ces crises. Et puis, vous découvrirez même également des chevaux qui jouent un rôle d'aide-soignant. Ça s'appelle l'hypothérapie. Je ne connaissais pas, aussi bien auprès d'enfants que d'adultes.
Alors, les deux mascottes de ce documentaire, ce sont les deux chiens que les équipes ont suivis pendant plus d'un an.
Oui, parce que c'est vraiment bluffant de voir leur formation, leur évolution. On voit Nook, le futur chien d'avalanche qui, au départ, est hésitant, il a un peu peur du vide. Et puis, eh bien, au fil des mois, il gagne en confiance grâce aussi à la relation avec son maître. Et puis, Mezzo, que l'on découvre à sa naissance, bébé labrador noir d'1,2 kg. Il va être formé pendant 2 ans avant d'être apte à accompagner une personne non-voyante dans sa vie de tous les jours.
Mais ça ressemble à quoi ces formations ?
Tout simplement des tests pour s'assurer que les chiens restent calmes dans des situations nouvelles avec des bruits inconnus. Parce qu'à terme, eh bien, c'est le chien qui devra rassurer son maître et en tout cas ne pas le mettre en danger. À la fin de sa formation, Mezzo connaîtra une 50aine de mots pour comprendre chaque situation, comme ici, où il apprend à guider son maître dans la rue en évitant les obstacles.
Il marque un arrêt pour me signaler « attention, c'est étroit », mais après, c'est à lui de se débrouiller pour que ça passe, même au ralenti. Mezzo, allez, va devant.
Donc là, il a vraiment tenu compte de votre présence physique.
Oui, on lui apprend que son corps, maintenant, ça devient le nôtre.
Voilà, c'est un film de Bruno Bucher et Mathieu Dubosc avec de nombreuses séquences touchantes, surprenantes à regarder facilement en famille. Donc ce soir, 21h, France 3.
Et j'en profite pour vous signaler que demain soir, France 5 diffusera un documentaire poignant signé de notre confrère Olivier Delacroix, Femme du Nord, quand la vie est un combat. Nous en reparlerons demain matin avec lui. Il sera notre invité à 6h20. Merci beaucoup Aurélien Fleureau, merci Axel de Tarlet, Adrien Beck. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain, peu avant 7h15. Merci les garçons.
À demain.
Il est 6h54, Eva Rock.
Debout les copains touche à sa fin. Dans quelques minutes, je céderai la place à Nikos Aliagas. Nikos qui peut entrer dans ce studio sans crainte. Pas de débriefing de sa matinale de vendredi, pas d'odieux montage son de ses phrases. En revanche, notre bourreau, Mathieu Nodouel, n'étant pas là, je vous propose de vérifier l'adage. Les absents ont toujours tort. Nikos Aliagas arrive aux commandes de la matinale d'Europe 1 et moi, j'arrive avec quelques sons du patron suisse.
Europe 1, il est 6h56, c'est baroque.
Debout les copains s'apprête à céder la place à la matinale de Nikos Aliagas. Un passage d'antenne en musique, mon cher
vous
Nikos.
Ici.
Mais oui, en musique, je vous disais, parce que de l'autre côté de l'Atlantique vient de s'achever la cérémonie des Oscars. Alors, je sais bien que les Oscars récompensent des films et ceux qui les font, mais cette édition 2019 consacre aussi la musique. Elle sait tout faire, jouer la comédie et surtout chanter. Une grande voix qui était sur scène il y a quelques minutes. Mais vous allez pouvoir le remettre. Lady Gaga nommée dans la catégorie meilleure actrice pour A Star Is Born, le film 2 et avec Bradley Cooper. Et cette chanson, Shallow, qui vient d'obtenir l'Oscar de la meilleure chanson. Dans
magnifique.
La catégorie homme.
Vous avez vu leur duo sur scène.
Formidable. Ils sont amoureux tous
ils
les deux.
Faire.
Hein
bon, ouais,
on est d'accord.
Pas,
hein, mais j'ai l'impression. Moi. Dans la catégorie homme, eh bien, il était encore question de musique. Là, c'est la voix de Freddie Mercury, mais c'est Rémi Malek qui incarne Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, couronné meilleur acteur
magnifique.
Ce matin. Que serait un film sans musique ? Alors certes, ces deux longs métrages dont nous venons de parler sont deux histoires de musiciens, mais l'excellent film d'Alfonso Cuarón, Roma, également nommé à plusieurs reprises, n'aurait pas la même saveur sans sa bande-annonce. La musique comme décor des années 70 au Mexique que le réalisateur retrace. De la haute couture musicale pour doter des plus beaux apparats ces images et un des maîtres en la matière s'appelait Stanley Donen. Il est décédé jeudi à l'âge de 94 ans et dans sa longue filmographie, il nous a permis de chantonner ça.
Hey.
Comment se lasser de ses airs, Nikos, hein, évidemment.
Il fait beau.
Alors en revanche, même la pire des comédies ne pourrait intégrer ce titre dans sa bande originale. Chanson interprétée par Mathieu Noël.
Oh là. Ma bonnette, ma bonnette.
Adaptation stupide, vous en conviendrez. Mieux vaut garder les vraies paroles d'une chanson sans jamais oublier, évidemment, que l'on présente une tranche info.
Toute la musique que j'aime.
C'est qui ça?
Elle vient de
c'est
là.
Le Suisse.
Elle
c'est
vient
Mathieu
du
Noël.
Bleu. Les mots ne sont jamais les mêmes.
Ok, mec, merci beaucoup.
Pour exprimer ce qu'est le blues.
Ah, il fera pas The Voice, lui. Hein.
La musique vivra tant que vivra le blues.
Juste, est-ce qu'on peut avoir l'AFP?
Oui, bah. Alors Mathieu Noël chante très bien, évidemment. Hein. Mathieu Noël est la perfection, gardez bien ce son. Je ne voudrais pas que notre histoire se transforme en thriller psychologique angoissant. Bonne journée à tous et bonne matinée à Nikos.
Merci Eva Rock, c'était un plaisir.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.